Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Et on se retrouve dans un tout petit instant pour une nouvelle semaine du 10h midi. On va recevoir Laurence Boccolini. Elle revient, elle est déjà revenue à la télévision avec le jeu Mot de passe. Elle va tout nous raconter sur ce transfert de TF1 à France 2. Et puis à 10h30, on va parler de nos nouvelles habitudes de consommation après le Covid. Appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire si des choses ont changé. Est-ce que vous achetez plus de bio? Est-ce que vous achetez mieux mais moins? 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles.
Bonjour madame,
ça va bien?
J'ai mon masque, je vais l'enlever.
Ah oui, retirer, oui, moi je le garderai bien.
On a des distances, ça va.
Oui, on a des distances et les fenêtres sont ouvertes, ouais. Je le précise.
Vous êtes à
très bonne semaine à vous, on est ensemble comme tous les jours jusqu'à midi. Aujourd'hui, on va recevoir, avec une très belle programmation, je dois dire quand même Gilles.
Merci madame.
Avec cette semaine, beaucoup de... On va avoir Baudère,
On va avoir Antoine de Maximi qui sort un film au cinéma adapté d'une émission télé. C'est assez rare pour le faire remarquer. Et demain, on aura Véronique Jeunesse.
Absolument. Et là, c'est Laurence Boccolini qui sera avec nous dans un instant. Mot de passe.
Ah oui,
qui
le revient, transfert de l'année.
Voilà, qui revient sur France 2. Elle sera avec nous. Elle va tout nous raconter de ce transfert. À 10h30, on va parler de nouvelles habitudes de consommation. Est-ce que vous achetez moins, mais mieux? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus vigilant à ce que vous mangez? Visiblement, c'est le cas. On en parlera avec une bouchère qui s'est adaptée au Covid et avec la directrice du... il y a Laurence Boccolini qui arrive
dans
en studio, même temps,
voilà,
qui me perturbe. Voilà.
Bonjour Laurence.
Donc, bonjour Laurence. Elle arrive, elle est là avec nous dans le studio avec son masque, son gel, absolument. Voilà. Et donc, je disais, Pascal et Belle du Crédoc qui sera avec nous. Bonjour Laurence. Mettez votre gel, ça va bien et vous?
Oui,
on a tout. C'est bon, les micros sont désinfectés, la salle aussi, on vous précise. Voilà. Comment ça va?
Ça va, bien. Bien.
Ah, on est contents.
On est ravis. On vous avait eu pendant le Covid avec les chansons. On va en reparler avec vous parce que moi j'ai hâte de savoir si vous allez sortir cet album.
Ah, donc, suspense.
Donc du lundi au vendredi, mot de passe.
Ouais,
on va en reparler dans un tout petit instant. Hein, 10h35, Gilles, la question du jour, j'allais l'oublier.
Non, mais la question du jour, évidemment, samedi, il y avait les gilets jaunes. Et les gilets jaunes étaient peu nombreux et pourtant les chaînes infos n'ont fait que des duplex, que du direct. Alors, est-ce que les chaînes infos en ont-elles fait trop avec les gilets jaunes? Vous répondez oui à 67%, non à 33%. Vous pouvez aller réagir et donner votre avis sur le site Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, on a Gérard qui nous dit que sans les caméras, il y aurait 10 fois moins de monde. Chacun vient faire son cirque pour passer à l'antenne.
Écoutez, on en reparlera nous-mêmes à 11h. Alors, Laurence Boccolini, l'émission commence toujours par un petit quiz.
Vie.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Alors le quiz, ça commence par la première question, c'est la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand?
Je devais avoir 5 ans.
Ah.
Et c'était sur France 3, de la troisième chaîne. Je jouais une souris dans un ballet au théâtre Montansier à Versailles et il venait faire un reportage.
Et vous vous en souvenez?
Ah, m'en souviens très très bien parce qu'il y avait un caméraman et j'avais très peur et ma grand-mère m'a dit vas-y regarde.
Bon, après un peu plus tard
ça devait être je sais pas.
Vous savez pas, vous souvenez pas
du premier truc, peut-être avec Tina Kiefer.
Ouais.
Peut-être. Je faisais une chronique.
Dans j'y crois pas, non, c'était
non,
ça,
non, dans demain c'était... il fera beau.
Ah, ouais.
Et peut-être c'est ça.
Peut-être c'est ça.
Ouais, j'ai pas grand souvenir.
Non. Et puis votre première émission à vous.
Ah ma première émission à moi, c'était Que le meilleur gagne, mais je suis pas restée très longtemps.
Non.
Mais après ma première émission à moi, c'était Le Maillon Faible.
C'était le Maillon Faible, et évidemment celle qui a marqué tous les esprits. Décidément ce matin.
Dès que j'arrive,
elle me perturbe.
Je vais m'en aller. Je vais m'en aller.
Un souvenir, une émission culte. Pour vous, une émission
que j'ai faite ou que
non, qui a disparu, qui reste.
Qui a disparu, Seigneur, qui a disparu, c'est triste. Je sais pas. Le francophonissime.
J'adorais le francophonissime
avec Jean Valton et tout. C'était géant.
On était enfants.
On était gamines, on était bébés. Mais moi, on s'adorait. C'était pendant les vacances. On regardait ça avec mon grand-père. Mais j'adorais ça.
L'événement historique qui vous a marqué à la télévision?
à la télévision, j'étais en train de j'étais chez moi et la navette a explosé.
Ah.
J'étais devant j'ai devant la télé Columbia, et on regardait Challenger et ça a explosé et je me rappelle me dit c'est étrange, ça devrait pas faire ça. Ouais. C'est étonnant que dans la tête.
Ouais. Et ça, c'est ce qui vous revient là.
Ouais. Là, après, plein de choses. Hein,
Est-ce qu'il y a une émission que vous regardez sans oser l'avouer?
Non, j'avoue tout. Les Reines du Shopping.
Oui, une émission qu'on n'imaginerait pas vous voir regarder. Ah, voilà, c'est ça, Les Reines du Shopping.
Dites donc. Avec ma fille, qui est très fan et qui, maintenant, quand on fait des courses, dit c'est pas la pièce à choper.
C'est drôle.
Elle dit aux vendeuses, elle prend pas ça, c'est pas la pièce à choper. Et elle dit c'est tendance, ça lui va pas, elle critique tout. Il faut que Christine l'invite, elle critique. Candidates.
Faut que Christina Cordula la fasse venir.
Faut qu'elle la fasse bosser un peu. Bah oui.
Ça l'intéresse la mode, ça la passionne.
Non, mais elle aime bien ce côté challenge, ce côté. Je crois qu'elle comprend pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, elle a compris que la pièce. Je sais pas si c'est la pièce à choper. Ouais. Genre, je chope quelque chose ou je chope le shopping. Mais elle dit dans les boutiques,
c'est pas la pièce à choper.
Et à la télévision, il y a souvent des stylistes. Vous vous laissez facilement habiller.
J'ai jamais eu de styliste. Non.
Ah bon?
Non, jamais. Non, j'en ai pas.
Donc c'est vos fringues
C'est mes fringues
personnelles.
À moi. Oui.
Ah
et
bon
oui.
Et alors chez vous la regardez où la télé?
Ben alors.
Il y a combien de télés déjà chez vous?
Il y a deux télés, voilà. J'en ai une dans ma chambre.
Ouais.
Là c'est plus quand je regarde les plateformes, quand je regarde parce que moi je suis documentaire phage.
Ouais.
Je peux regarder.
Et vous demander ce que vous regardez à la télé.
Alors, les documentaires c'est terrifiant parce que maintenant ils en font des très bons sur les plateformes qui sont feuilletonnants.
Ouais.
Vous dites bon il est 11h, il est 23h50, je regarde le premier épisode et à 2h du matin vous êtes toujours non je veux savoir dans sa famille.
Mais quoi comme documentaire par exemple?
Surtout les trucs les phénomènes de société.
Surtout sur Netflix. Le propriétaire de Tigre, vous l'avez pas vu? Extraordinaire.
Extraordinaire. Royaume des Tigres, mais ça s'appelle pas comme ça.
Non,
j'aime bien tous les trucs, par exemple, dans la tête de Aaron Hernandez, c'est fabuleux. Les trucs sur les sectes, les choses, les trucs sur la société, ça me fascine.
Plus que les séries.
Ah oui.
Les séries, non. Mais pas du
alors,
tout
alors moi, j'ai un truc qui est très particulier, c'est que quand j'aime une série, je peux la re-regarder du début tout le temps. Seinfeld, je l'ai retrouvé et je peux regarder toutes les saisons encore. Monk, je peux re-revenir au numéro 1. Mais par contre, Game of Thrones, ça n'a pas pris chez moi.
Non, moi non plus.
Moi, j'ai bien aimé.
J'ai essayé.
Est-ce qu'il y a une émission où vous n'auriez jamais dû mettre les pieds? Vous regrettez d'être allé?
Il y en a quelques-unes. Oui. Bah, tout le monde le sait.
Ruquier.
À part celle-là, il y en a une avec de la rue où il y a quand même un paparazzi qui m'a marché dessus. Et j'ai eu la trace de son pied pendant 2 semaines comme ça.
Ah ouais?
Ouais. C'était un truc qui parlait de la presse People. Je me disais, pourquoi il faut absolument que je sois là? On m'avait dit, monsieur, ça va être marrant. Oh, ils se sont battus et moi j'étais en dessous.
Pas un bon souvenir.
Non, sinon, parce que je réfléchis avant d'aller quelque part. Je me dis que c'est
mais
pas.
Mais au début, on peut faire des erreurs parfois quand on.
Des émissions que j'ai présentées, j'en ai pas présenté tant que ça. Donc en fait, je peux pas dire. S'il y avait un truc qui s'appelait Dance Floor.
Non, mais où vous avez été invité, c'était plutôt ça.
À part l'émission où je me suis fait laminer. Ouais. Je le regrette un peu.
Ouais. Et après, on passe un coup de fil, on lui dit non, on fait quoi? On pleure?
On dit rien.
Ah oui, on pleure encore même maintenant. Mais non, personne ne vous passe de coup de fil et vous ne passez pas de coup de fil.
Vous n'avez pas envie de l'appeler, de lui dire c'est pas bien ce que tu as fait
ou... Non.
Pourquoi?
D'abord, vous n'êtes pas en état. C'est une chose qui vous arrive devant des millions de gens, c'est compliqué. Vous vous dites qu'on va vous appeler et qu'on va s'excuser parce que c'est quand même grave ce qui vous arrive. Et puis moi, j'ai eu tendance à mettre un chapeau dessus, c'est-à-dire que j'ai reçu des centaines de messages de gens connus, pas connus, mais des gens très connus, qui m'ont appelé en me disant on était fascinés par l'horreur de ce qui se passait.
Vous êtes encore ému.
Ouais, parce que et moi j'ai décidé, comme je fais beaucoup, de dire c'est arrivé, ça ne m'a pas fait mal. Et puis c'est sorti quelques années plus tard où je me suis aperçue que ça avait laissé une très grosse trace.
Ouais.
Et je me suis toujours demandé, alors je me le demande pas, je me dis qu'aujourd'hui si ça arrivait, je me lèverai, je m'en irai, je ne me laisserai pas défoncer comme ça, parce que c'est ce que j'ai laissé faire. Ouais. En fait, j'ai laissé... je me suis pas respectée ce soir-là.
Ouais, mais c'est pas toujours facile quand on est.
Bah non, parce qu'en plus j'entends
sur un plateau.
J'entendais la productrice dans les ordres du cadreur, parce que vous savez, les cadreurs ont des petits casques. Ouais, et quand ils mettent leur casque sur le côté, parce que ça les gêne, on entend ça. On appelle ça pisser. Ça pisse par le truc. Donc on entend ce que la productrice dit. Et j'ai entendu la productrice dire "Rapproche-toi d'elle, elle chiale." Et j'ai vu une boîte de Kleenex arriver sous mon nez. Et je me disais, ne pleure pas, t'as jamais pleuré à la télé, faut pas pleurer. Mais ça sortait tout seul. Et je me disais, je ne savais pas ce que je faisais là, en fait. Je venais présenter un bouquin où j'expliquais une expérience. C'était pas un bouquin, c'était pas un grand prix littéraire, j'ai jamais dit ça. Et qui a ouvert plein de portes à plein de femmes qui m'ont écrit en me disant, m'ont vu, qui m'ont dit, oh, il y a quelqu'un qui parle ça. Et je me faisais démonter, je comprenais pas pourquoi. Et donc voilà. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc qui va rester longtemps en moi.
Oui, mais ça donne des armes pour. C'est comme ça le côté positif de
c'est
se dire,
ça, la prochaine fois, je fais pas.
Je fais pas ça, mais quand on est en direct, c'est vrai que
c'est
pas.
C'est compliqué, quoi.
C'est pas évident. Vous faites attention à ce que regarde votre fille à la télé ?
Elle regarde pas la télé.
Elle regarde pas la télé ?
Non. Elle regarde vaguement quelques dessins animés qu'elle aime bien. Elle regarde avec moi des choses comme RuPaul Drag Race où elle et moi on est fans. Donc voilà, c'est très, on sélectionne beaucoup, mais il y a pas de télé allumée où elle regarde les écrans toute la journée.
Alors, on rappelle que votre livre, vous avez publié plusieurs livres, mais il y avait Puisque les cigognes ont perdu mon adresse.
Qui n'était pas un prix Nobel de littérature,
mais qui était une expérience.
C'était une expérience. Personne de connu ne disait voilà ce que c'est de faire des fécondations in vitro. Voilà comment on sent, comment on fait notre métier en même temps. Et il y a plein de femmes qui sont reconnus et qui ont dit bah, je vis la même chose, personne n'en va. Et ça a ouvert la porte à plein de femmes connues qui ont pu, par exemple, faire des bouquins sur l'endométriose, l'adoption. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais en train de me faire frapper en direct, parce que je venais dire quelque chose qui me concernait, qui concernait plein de gens. Et voilà, c'était assez affreux.
C'était un livre qui venait du cœur.
Allez, le zapping.
Ah. Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping.
Oh là là, Valérie, quel pugilat hier lors du match PSG-OM. Il y a eu tellement de cartons jaunes qu'on serait cru au Tour de France. 17 cartons, Valérie, 12 jaunes, 5 rouges. Les esprits se sont échauffés au point que Neymar a révélé avoir été traité de noir et de singe par le phocéen Alvaro Leonardo, qui est le directeur du PSG, s'est exprimé sur la chaîne de Téléfoot. Vous allez voir, c'est très clair.
Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas même commenter, mais je sais que c'est passé. Les télévisions, ils ont les images, ils ont des audios, et ça sera jugé.
Je pense qu'on doit faire attention. Neymar vous a peut-être dit ce qu'il a entendu de la part des joueurs marseillais?
Oui, bien sûr. Mais là, je pense que la télévision, elle est là et ça sert à juger.
Toujours racisme vendredi soir dans C'est à vous. Karine Le Marchand est revenue sur la polémique à propos des propos de Nicolas Sarkozy dans Quotidien. Elle a défendu le président de la République face aux réseaux sociaux.
Moi, je trouve que c'est chiant. Ça donne de l'importance à ceux qui dénoncent aussi. Ça les remet aussi sur la table, devant la scène. Voilà. Je suis concernée par la situation. J'ai interviewé Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas amie avec Nicolas Sarkozy. Je ne peux pas dire qu'il soit raciste. C'est pas vrai. Voilà. Je ne le pense pas.
Samedi, les Gilets jaunes ont défilé et ont été rejoints par Jean-Marie Bicard. Ben, il a été bien accueilli. Il faut dire qu'il s'était désolidarisé de Jérôme Rodriguez, qui avait traité de nazi la police. Réfugié dans un café, Jean-Marie Bigard était choqué.
Sûrement le mec qui a le plus aidé les Gilets jaunes dans tous les sens du terme. Et donc évidemment que je ne m'attendais pas à cette douche froide, jet d'objets et tout, avec des... Heureusement qu'il y avait deux gars avec moi qui assuraient ma sécurité, mais sinon je serais peut-être en train de me faire lyncher par terre à coups de savate et tout. Et que c'est un peu terrifiant, quoi.
C'est violent, hein, Laurence.
Oui.
C'est terrible, hein. Et je pense qu'il a dû être très surpris, enfin, c'est ce qu'il dit.
Il ne s'y attendait pas du tout. Et pour finir, Valérie et Laurence, l'émouvant message de Denis Brognard, vendredi, avant la diffusion de Koh-Lanta, il a rendu hommage à Bertrand Kamel, qui est mort dans la semaine d'un cancer.
Mon Béka, je garde précieusement avec moi, pour toujours, tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c'était dur. Je ne t'oublierai jamais, nous ne t'oublierons jamais, et nous te dédions évidemment cette saison de Koh-Lanta où tu faisais l'unanimité. je t'aime.
Voilà. Avec oui, une très bonne audience pour Koh-Lanta. Vous regardez Koh-Lanta, Laurence?
Plus tellement, non. J'ai regardé beaucoup au début. Beaucoup les premières années, et puis j'aime pas commencer un truc et après je perds trois émissions, je sais plus qui a fait quoi, qui est parti, voilà.
Donc non. Le transfert de l'année, Gilles le disait tout à l'heure, c'est votre passage de TF1.
Ah bon, c'est moi, j'attendais une info, moi.
D'accord, c'est pas Neymar.
Le transfert, c'est quand même un gros changement. Vous êtes passé de TF1 à France 2 après plus de 20 ans dans cette chaîne. Un transfert, vous l'avez dit, évoqué dans la presse, qui s'est fait pour vous sans réelle souffrance.
Ah bah non.
Vous n'êtes même pas posé la question.
Ah bah non. C'est-à-dire non, la souffrance, c'était de rester. Ouais. C'était pas de partir. De toute façon, je partais pas vraiment, parce que moi, j'ai pas de contrat d'exclusivité. On m'appelait pour faire trois émissions par an. On peut pas dire qu'on est vraiment dans une chaîne. Ce qui me gênait, c'est qu'on disait toujours l'animatrice phare de TF1. Mais j'étais pas l'animatrice phare, je faisais rien. Donc, quand un autre groupe vous appelle en vous disant on a des tas de choses pour vous, on a des projets, on aimerait que vous veniez bosser, faire de la fiction, vous posez pas la question de 30 secondes, vous dites ah bah, j'existe.
Ouais, voilà. Et TF1 vous a essayé de vous retenir?
Non.
Vous avez
appelé? Mais ils l'ont appris quand je suis partie. Hein, donc moi,
vous
ne
les
avez
pas appelés?
Mais non, j'ai pas les appelés. Je n'ai rien. En fait, moi, on m'appelle juste pour faire une émission, mais je n'ai pas de contact.
Vous faisiez le grand concours des animateurs.
Mais je n'avais pas de contact beaucoup avec eux. Ouais. Enfin, c'est plus l'époque où Étienne Moujotte vous cocoonait, vous appelait pour vous demander comment vous alliez, qu'il n'y avait pas de projet pour le moment, mais que ça allait venir. Enfin, il y avait des choses très rassurantes qui se passaient avec les autres directions. Là, ce n'était pas le cas. Donc. Moi, je me suis dit, bon, voilà, ça leur fera ni chaud ni froid.
Ils vous ont appelé après ou pas?
Xavier Condon a fait un tweet en disant qu'il vous regrettait, que vous étiez la bienvenue dans la maison pour revenir.
Oui, c'est ce que ça s'appelle.
C'est tout.
C'est du politiquement correct, c'est bien. Ils savent très bien faire ça.
Mais c'est tout.
Oui, c'est tout. J'ai eu un SMS de Ara Prican qui me souhaite bonne route, bonne chance. Et j'ai eu un très gentil SMS de Gilles Pélisson, que je remercie, parce que c'est un des rares qui m'a écrit après le Masked Singer. Un truc très personnel et très gentil et qui m'a beaucoup touchée. Et qui est le gros patron qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il fallait prendre soin des gens avant qu'ils partent, hein, c'est pas après quand ils sont partis.
Vous regrettez cette époque d'avant, c'est-à-dire...
Un peu, oui. Je ne m'en cache pas, oui. C'était quand... Tout n'était pas non plus... Mais c'était... On se sentait... pas important, mais comme dans n'importe quel travail, on se sentait écouté. On se sentait même rabroué de temps en temps quand on faisait des trucs, on nous appelait à 9h du matin, on disait non, les audiences sont pas bien, on va pas. Voilà, mais quand les audiences étaient bien, voilà, on t'appelait à 9h02 quand ils avaient les audiences en disant ah, c'est vachement bien, voilà. Il y avait une espèce d'existence de pas de famille, hein, c'est pas une famille, mais on a l'impression d'appartenir à quelque chose.
Et du coup, Delphine Ernotte, vous a téléphoné après la première émission?
Tout le staff, la direction des jeux était sur et des divertissements étaient sur mon plateau. Ils venaient voir quand même si
bien,
je travaillais bien.
Mais c'est agréable.
Pourtant, c'est comme dans un couple. Si quelqu'un, vous le voyez plus à table pendant un an de suite, vous vous posez des questions, vous dites tiens, il est peut-être parti. Ouais. Donc, voilà,
et mot de passe, c'est un jeu que vous suiviez.
J'adorais
mot de passe. C'est Patrick Sabatier qui le présentait.
J'adorais.
Vous voulez que je fasse un mot de passe, Valérie?
Allez-y.
Et si je vous dis mythologie?
Dieu.
Cheval.
Sel.
Oh.
Non, j'en sais rien.
Licorne.
Ah, licorne. Oh là là. Bon, non. Bon.
Ah oui, d'accord.
Bon, il est pas très. Faudra pas l'inviter.
Non, on l'invitera pas pour faire trouver des mots candidats.
On l'invitera pas.
Vous aviez pas trouvé non plus mythologie. Ah, cheval,
j'allais sur un truc mythologie, cheval, dieu, chercher un cheval, un dieu à cheval.
Pour nos auditeurs qui seraient pas tout à fait au point, on rappelle que vous avez incarné le personnage
de la licorne dans Masked
Singer avec
fierté, dites quand même. Non,
et talent.
Merci, ça je ne sais pas.
Et talent. Et donc ce jeu quotidien, c'est un changement dans votre vie aussi.
C'est-à-dire que là, on travaille beaucoup parce qu'il a fallu très vite que ça soit à l'antenne. Ouais. Donc on en a enregistré une grande salve pour tenir 2 mois. Parce que alors je le dis aux gens qui ne connaissent pas bien comment on travaille pour les jeux, c'est l'habitude. Hein. On fait pour rentabiliser les studios, il faut absolument... tout enregistré, et après on refait des salles d'enregistrement. Vous ne pouvez pas enregistrer un par jour. Quoi.
Ouais. Nagui est le champion pour ça, il en fait 8 ou 9 par jour.
Moi aussi j'en fais 8 par jour.
C'est vrai? Vous êtes la championne.
Mais on n'a pas tellement de choix, et après on recommence, voilà, donc j'ai retrouvé mes bonnes habitudes de jeu, mais il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas des jeux, donc ça c'est plutôt sympa.
Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Alors d'abord, il y a Mickaël qui demande quelle célébrité verra-t-on dans Mot de passe?
Ah
Alors, je ne sais pas encore, parce que on a fait une là, on va faire une réunion, on a une liste de gens qui sont très, très fans, des copains qui ont envie de venir jouer, comme Didier Gustin, comme Arnaud Gidouin. Après, on verra peut-être pas Brad Pitt ou Johnny Depp, mais voilà, c'est...
c'est des gens...
c'est des gens heureux, c'est des gens qui... C'est juste, c'est nous, c'est qu'on a envie de rire, et là, la salve qu'on a fait, on a eu beaucoup de coupes au montage, hein, parce que...
Il y avait quoi, des choses pas montrables
aussi, mais c'était beaucoup. Il y a d'ailleurs les candidats qui sont venus jouer à ce mot de passe-là cette semaine-là ne savaient pas que c'était moi qui présentais.
Ah.
Et donc ils se sont inscrits en disant ça va être un animateur ou une animatrice très. Comment dire ?
Très posée, très calme.
Alors, ils me regardaient avec des yeux en se disant c'est, qu'est-ce que je fais là ? Mais c'était très drôle.
Ouais. Comment vous êtes arrivée au jeu ? Parce que vous avez quand même.
Vous êtes une roqueuse.
Oui, vous avez un passé un petit peu. On vous a entendu, moi j'adorais sur France Inter quand vous étiez avec Laurent Ruquier, avec une plume.
Mais je pense en fait, c'est arrivé avec le. Bon, alors que le meilleur gagne, je ne sais pas avec quoi c'est arrivé. Enfin, je pense qu'il cherchait une femme pour remplacer Nagui. Le jeu était en train de s'arrêter. Moi, je n'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas compris que le jeu s'arrêtait et que j'allais m'arrêter avec. Donc en fait, c'est quelque chose... J'ai pas beaucoup de souvenirs de Que le meilleur gagne en 92 ou 93. Ouais. Mais en fait, il cherchait quelqu'un pour faire le maillon avec une personnalité un peu particulière, avec quelqu'un qui n'était pas totalement animateur. Donc voilà, moi j'ai passé le casting, mais je devais être la 47e à passer le casting.
Ils
m'ont pas appelé en premier. Et donc, comme je connaissais très bien le jeu, parce que je partageais ma vie entre Paris et Liverpool, je connaissais très bien ce jeu qui était diffusé en Angleterre, ils m'ont trouvé bien. Mais en fait, je ne sais pas comment je suis arrivée au jeu. C'est peut-être le rapport que j'ai avec les gens de tous les jours. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'aime le plus dans le jeu. C'est que c'est là où on voit des gens comme vous et moi.
Oui, alors c'est ça. On a un auditeur qui dit, avant les jeux télé, comme Fort Boyard, il y avait des candidats lambda, Monsieur Tout-le-Monde, qui pouvaient gagner. Maintenant, c'est réservé aux VIP et je trouve ça nul.
Ah bon, je ne sais pas ça.
Mais il y a quand même des lambda. Il y a quand même... quand je dis lambda, des gens qui...
Moi, je trouve que c'est toujours plus sympa quand ce sont des gens, alors on va dire lambda, j'aime pas trop dire lambda, mais qui sont pas très connus, parce que il y a un vrai enjeu pour eux, ils viennent jouer pour eux. Bon, c'est pas pour les sommes mirifiques qu'on présente.
2000 euros
si on y arrive. Hein. Ouais. Mais c'est pour le fun, c'est pour eux. Et moi, je voyais que par exemple, la différence quand je faisais Money Drop, quand on faisait avec des lambda entre guillemets, j'aime pas ce mot.
Oui, non, mais avec des gens.
Et avec des gens qui venaient jouer pour des associations, des gens connus, c'était pas le même rapport, parce que il n'y a pas la même intensité.
La même excitation, la même intensité.
Même pour, en tant qu'animateur, on n'a pas le même rapport. La plupart du temps, on les connaît un petit peu, donc on ne va pas aller les chercher. Et là, j'aime bien, c'est des gens que je ne connais pas.
Alors, il y a d'autres projets, vous l'avez dit.
Oui,
quand on est venu vous chercher, on n'est pas venu qu'avec le jeu. Il y avait une hotte de
Et je ne suis pas partie parce qu'on proposait un jeu quotidien. Certainement pas. Je suis partie parce qu'il y a des gens en face qui me disaient on a envie que vous travailliez sur plein de choses avec nous.
Ouais.
Donc, il va y avoir des choses qui ne sont pas du jeu.
Parce que la
fiction, Mademoiselle Joubert.
Ouais, mais alors ça aussi,
c'était génial.
C'était génial, mais bon, la fiction, j'ai eu beau demander à la fiction de TF1 si je pouvais en faire, c'est jamais arrivé, et c'est juste arrivé une fois que j'ai tourné une fiction pour France 3 à Mongeville. J'ai fait un Joséphine Ange gardien, donc voilà, j'ai pas bien compris. Donc j'espère que la fiction ça va continuer. En tout cas, on me propose plein de trucs. J'ai des auteurs qui sont en production, qui me demandent si ça me plairait de faire ci, faire ça. Donc c'est agréable de se sentir aimé, quoi. Ouais. En tout cas, pas aimé, mais en tout cas qu'on voit à travers moi quelqu'un qui peut faire des choses sympas.
Ouais. Bon, donc de la fiction, peut-être des primes.
Primes. Spectaculaire, ça aurait dû être pour vous, non ?
Oh bah pourquoi ? Non,
parce que c'est ce que disait la presse. Je lis bêtement la presse People, vous savez, qui disait que ça aurait dû être pour vous plutôt que de Jean-Marc Généreux.
Oh mais il sera bien, non ? Ouais, mais je peux pas
faire tous les
faire
primes.
Tout, je peux pas faire tout.
Du lundi au vendredi, donc.
On l'a pas entendu chanter.
Ah bah allez.
On met un petit extrait.
Un petit extrait.
Rapidement. Voilà.
C'est magnifique, magnifique.
Et
alors l'album ?
Alors oui, on attend que notre pianiste revienne de répétition avec une star internationale.
Céline.
Voilà.
Céline.
Céline.
Non.
Non, mais aussi ouais. important, donc on ne peut pas lui en vouloir. Ouais. Mais dès qu'il revient, on essaye de rentrer en studio. Pas pour faire un album pour vendre ou pour passer à la radio, parce qu'on ne passera pas à la radio, mais pour avoir un support, pour pouvoir faire de la scène.
J'adore votre voix, vraiment.
C'est
vraiment,
gentil,
vraiment, merci. Vraiment, c'est magnifique. On peut merci. Le retrouver sur votre Instagram.
Oui,
que
Instagram.
Vous avez gardé. Il y a plus de. On n'a pas eu
oui,
le temps.
Oui, j'ai
d'en
une
parler,
petite mais... chaîne YouTube qui s'appelle Dans ton KarmaTube et on a mis toutes les vidéos des chansons là-dessus.
Voilà. Super, merci beaucoup Laurence Boccolini d'avoir été avec nous. Puis on vous recevra pour l'album.
Yes.
Merci. On se retrouve nous dans un instant pour parler de nos nouvelles habitudes de consommation. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter cette actualité post-Covid, même si on est toujours un petit peu dedans, et nos habitudes de consommation qui ont changé. On va voir ça dans un instant. Appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire comment est-ce que vous êtes adapté depuis ce confinement. Est-ce que vous achetez moins mais mieux? On va en parler avec Marie-Claire Poirier. Bonjour, vous êtes directrice de Beaugrain. C'est un service de livraison de produits frais. Vous êtes bouchère, on peut le dire comme ça à la base. Vous allez nous raconter votre histoire. J'ai voulu que vous soyez là parce que je trouve que vous êtes assez représentative de ce qui est en train de se passer. Vous, vous avez dû adapter votre activité au Covid, justement, puisque vous êtes fournisseur de grands restaurants avec des produits d'exception. Et vous avez décidé, vous allez nous le raconter, de vous adapter à une clientèle grand public. Et puis Pascal Ebel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. C'est le CREDOC. Alors peut-être faire un petit point avec vous sur les grandes tendances en ce qui concerne justement l'alimentation.
Alors ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on va consommer un petit peu moins en restaurant.
Ouais.
Donc à la rentrée, parce qu'on a remis du télétravail, hein, certains étaient revenus à 100%, mais là avec l'épidémie qui revient, toutes les entreprises, pas toutes, mais une partie remet du télétravail, on est à peu près à 20% de Français qui aujourd'hui font au moins une journée de télétravail par semaine. Donc en termes d'alimentation, on a gardé un petit peu ces réflexes qu'on a eus pendant le confinement, avec notamment un peu plus de fait maison. Donc les gens ont continué à faire, pas forcément du pain, mais de la pâtisserie, des gâteaux. Et on mange beaucoup plus de produits frais, des légumes, des fruits. Et on a une baisse de consommation de viande c'est une baisse structurelle d'avant.
D'avant, oui, qui était d'avance. J'entendais ce matin Michel-Édouard Leclerc sur une autre antenne qui disait plus qualitatif, plus bio. C'est une vraie tendance de fond avec une accélération, avec une montée en gamme. Peut-être Pascal Ebel, vous confirmez, vous, cette tendance?
Alors, il y a vraiment une très forte hausse du bio, mais en ce moment, on commence à avoir une guerre des prix du côté de la grande distribution, et notamment Michel-Édouard Leclerc est le premier à avoir commencé, et donc les consommateurs, parce qu'on a une vraie inquiétude, c'est vraiment la première inquiétude après l'inquiétude Covid, qui est le pouvoir d'achat, commence à se poser des questions et compare les prix.
Alors, Marie-Claire Poirier, vous êtes
bonjour
dans cette tendance. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire et puis comment de vente à des grands restaurants, on arrive aux particuliers. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant le Covid ?
Alors, nous, en effet, on a donc ma société, je l'ai créée en 2008. J'ai commencé en distribuant les bêtes de mon père, donc ma propre production. On l'a dédié dans un premier temps donc aux grandes tables que nous livrons donc depuis plus d'une dizaine d'années. Donc à la base, en effet, nous ne distribuons que des viandes.
Que des viandes, oui.
Des viandes de terroir avec des appellations régionales et puis le plus en direct des producteurs. Donc on a diversifié notre fourniture pour donc du coup proposer à d'autres producteurs aussi
Tout ce qui était des légumes, de la crèmerie.
Au début que des viandes. Et donc, du coup, en effet, pendant le Covid, on s'est retrouvés sans activité. Les restaurants étant fermés, on a décidé d'ouvrir un service de livraison à domicile.
Ouais.
En proposant donc les mêmes produits que nous avions sourcés pendant des années d'extrême qualité aux particuliers et à des prix qui nous semblaient des prix les plus justes possibles. Donc, en gros, des produits de qualité à des prix justes.
Ouais.
on s'appuyait sur nos capacités existantes, qui étaient qu'on a un service de livraison qui livre nos propres marchandises, ouais. Et ce sont nos chauffeurs et nos camions. Mmh. Donc on livre à température dirigée partout en Île-de-France. Et sur le reste de la France, on livre avec un partenaire, donc...
En 24 heures.
En moins de 24 heures.
En moins de 24 heures, donc on peut avoir des produits frais. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce passage que vous avez effectué, c'est-à-dire vous adresser à une clientèle de grand public. Et puis, avec cette notion de prix, de rapport qualité-prix qui est très intéressante. Alors, c'est ça qui... Souvent, on a des paniers qui sont proposés, qui sont hors de prix. Vous, vous êtes resté dans une gamme de prix tout à fait abordable pour des produits vraiment d'exception.
Nous, en fait, il y a deux choses qui vont permettre de comprendre notre positionnement qualité et prix. En effet, qui est un point important à évaluer pour un particulier. Le premier, c'est que comme on livrait une clientèle professionnelle, on voit toujours au plus juste pour eux. C'est une démarche de fond. Et donc, en effet, quand on a décidé d'ouvrir aux particuliers, on ne s'est pas demandé combien, jusqu'à quel prix on peut vendre. On s'est demandé quel est le juste prix pour nos marchandises livrées à domicile.
Oui, parce qu'il y a la notion du pouvoir d'achat. On va en reparler avec Pascal Hébel, qui est très importante, qui a toujours été importante, mais qui l'est peut-être encore plus.
Mais le deuxième point structurant, donc pour bien comprendre pourquoi nous, on est en mesure d'offrir des prix intéressants, c'est parce que, de toute façon, on livre déjà dans Paris une clientèle de restaurateurs, donc sur toute l'Île-de-France d'ailleurs. Et donc du coup en fait on mutualise des livraisons, mais
ça vous permet d'avoir un coût
plus raisonnable. Si en effet nous avions les mêmes coûts de structure pour uniquement un site en ligne, on n'aurait peut-être pas la capacité d'être si juste en prix.
D'accord.
Donc voilà la raison de notre positionnement prix.
Oui, Pascal Hébel, vous disiez moins de viande mais une exigence de qualité aussi, ça c'est ce que vous observez dans vos études?
Oui, il y a vraiment une chose que l'on recherche, c'est vraiment les circuits courts, là, comme l'offre qui vient d'être présentée, et le local, en fait, le Made in France. Ça, c'est vraiment très, très haut parce qu'il y a une solidarité et on cherche aussi à aller vers les commerçants du quartier pour finalement soutenir l'économie des gens qu'on connaît.
Même si c'est plus cher? C'est-à-dire, dans quelle mesure le prix intervient, parce que les deux sont souvent compliqués à concilier?
Oui, donc vraiment le prix là, il est en train de revenir très très fort. Et en effet, tous ceux qui s'étaient mis à faire du circuit court voient bien que depuis le déconfinement, les gens se sont éloignés de ce qui est trop cher en fait. Hein. Donc là, la rentrée, elle est vraiment sur, on voudrait du prix bas sur des produits de qualité. Dans la qualité, c'est vraiment le soutien aux producteurs, donc du circuit court. Et du local plus que le reste, hein, et le bio qui, alors sur la viande moins, parce que le bio sur la viande est beaucoup moins développé, mais sur les fruits et les légumes.
Oui, mais sur la viande, c'est la traçabilité, c'est ça qu'on demande aussi, c'est-à-dire d'avoir un circuit court avec, pour savoir d'où viennent les viandes.
Tout à fait, mais il y a aussi vraiment, alors sur la viande, hein, et ça c'est très culturel, hein, on cherche vraiment du goût aussi, hein, on revient sur un produit de qualité gustative.
Oui, Marie-Claire Poirier, c'est le retour que vous avez de vos clients?
Nous, en fait, quand on a commencé notre activité pour les professionnels, je vous ai expliqué qu'on avait un ADN de producteur, puisque j'ai commencé en vendant ma propre production. Donc nous, tout l'ensemble du sourcing, si je puis le dire comme ça, a été fait bien sûr autour de production française. Mm-hmm. Donc nous, nos principaux critères ont été d'abord d'avoir des produits français, ensuite d'avoir des produits qui ont un label, qui sont quand même une garantie de qualité d'élevage ou une garantie de qualité de production pour les fruits et légumes. Donc pour les viandes, on a des labels bio qui fonctionnent très bien et qui garantissent quand même des viandes élevées en plein air et sans antibiotiques. Pour ce qui est des fruits et légumes, on travaille beaucoup en plein champ. Enfin, contrairement à 95% des productions qui sont sous serre, nous, on a des courgettes qui sont en plein champ, des tomates de plein champ. Des mesclins qui sont récoltés en Île-de-France le matin même, quand vous trouvez des mesclins qui proviennent d'Italie. Bien évidemment, ça ne peut pas être la même fraîcheur.
Mais justement, qu'est-ce qu'on vous dit que des gens qui découvrent ce que vous proposez voient une différence?
En fait, les gens sont d'abord ultra surpris. Je vais parler surtout des fruits et légumes pour commencer. Mais sur les fruits et légumes, les clients en particulier, en effet, nous font des retours que c'est des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont d'une extrême qualité, des produits qui peuvent être atypiques. On a des petites aubergines blanches, on a des citrons de Nice magnifiques, on a des carottes jaunes, on a des herbes de toutes sortes qui sont produites justement dans le 77. Donc on a des produits atypiques que les gens sont contents de découvrir. Et bien sûr, bien entendu français, pour beaucoup en permaculture, sur produits en permaculture.
Ouais. Alors, on a une auditrice, Chantal, qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Bonjour.
Je me rends compte que j'ai de la chance d'habiter dans ce département, parce que au niveau du développement local, que ce soit la viande, les légumes, les fruits, on fait très attention, pas que moi, hein, beaucoup de gens, à ce que ça soit local, à aller à des marchés où il y a marqué la provenance qui est de la région. Et même déjà avant le confinement, il s'est assez accéléré là, avec le confinement, c'est sûr.
Mmh. Et vous, vous avez changé votre manière de consommer ou la manière dont vous faites vos courses ?
Alors, j'étais déjà très axée sur le local et le bio, mais ce que j'ai développé, c'est surtout au niveau de la cuisine. Par exemple, je fais mes brioches moi-même, et ça a un goût magnifique. Et vraiment, on ressent la levure et tout, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai redécouvert des goûts en faisant moi-même la cuisine, en fait, de façon plus longue, vous voyez ?
Oui. Bah,
Par exemple, j'ai redécouvert, je prenais des bouillons cubes, c'est tellement facile.
Ouais.
Et j'ai redécouvert comment faire soi-même. Je le savais, mais ça prend du temps. Et je l'ai pris ce temps, et vraiment, j'ai redécouvert les goûts. Quoi.
Mais vous avez gardé, parce que comme pendant le confinement, on avait le temps de cuisiner, mais vous avez gardé ce que vous aviez finalement redécouvert pendant le confinement. C'est-à-dire trouver le temps pour recuisiner.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, Pascal Hébel va peut-être nous dire que ça aussi, c'est une tendance, vous l'aviez évoqué, le fait maison. Merci de votre appel, merci de nous avoir appelé de votre beau département du Puy-de-Dôme. Au revoir. Pascal Hébel, fait maison.
Oui, le fait maison, il reste après le confinement. Donc, c'est quelque chose qui s'était développé déjà dans la crise économique précédente. Ça permet d'avoir confiance en ce qu'on mange. Et finalement, ceux qui peuvent prendre le temps, mais c'est vrai que l'activité économique ayant repris, tout le monde ne va pas trouver le temps, mais on va garder un peu de temps pour certaines choses.
Ouais.
Et ça va rester fort hein, dans les mois à venir.
Ça reste fort, ce côté fait maison, et où on a redécouvert, on a vu le succès de l'émission de Cyril Lignac, où on a redécouvert la cuisine, le plaisir de cuisiner soi-même.
Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment, surtout sur la pâtisserie, en fait, c'est vraiment sur les gâteaux que ça se fait. Il y a eu un retour sur le pain hein, pendant le confinement, mais ce qu'on sait, c'est que ça, le pain, les gens ne trouvent pas le même goût en faisant le pain eux-mêmes. Et donc, il y a des chances que le pain baisse, mais on ira sur d'autres types de produits. Et il y a un succès très important à la fois des recettes sur la télévision, mais aussi tous les sites qui permettent de faire soi-même la cuisine. Et ceux qui font du télétravail continueront à avoir un peu plus de temps pour en faire.
Bon, on se retrouve dans un tout petit instant, 0826 300 300 sur Sud Radio. Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation ? On vous attend. À tout de suite.